Je voudrais d'abord vous remercier, remercier particulièrement Patrice Meulet et Arnaud de la Jartre, non pas de m'avoir demandé de conclure, parce que ça, c'est un sale coup. J'aurais pas dû accepter. J'espère que vous serez indulgents, mais de les remercier, ainsi que tous ceux qui ont participé à la réalisation de ces deux journées, de les remercier chaleureusement pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Et puis, je voudrais aussi dire à nos collègues, plus particulièrement à nos collègues et amis étrangers, combien c'est toujours évidemment captivant d'aller voir ailleurs si on y est. C'est une manière de voyager. Alors, voyager à travers les institutions, à travers le droit, mais ça peut être quand même passionnant. Et les remercier d'autant plus que ils nous ont beaucoup appris. Alors, la démarche comparative, elle est évidemment périlleuse, surtout dans le domaine du droit, dans le domaine de l'appréhension des termes juridiques, l'appréhension des outils qui sont mis à la disposition des responsables, des aménageurs, et puis peut-être aussi, et surtout finalement, du public qui doit pouvoir accéder au patrimoine. J'y reviendrai sur cette question. Mais au-delà de ces observations, il faut d'abord souligner, c'est ce qui m'est apparu en tout cas, les difficultés d'ordre terminologique qui se présentent à nous. D'abord parce que ce n'est pas du tout évident qu'au travers des systèmes juridiques que nous avons abordés, on ait par exemple la même définition juridique de ce qu'est déjà, pour commencer par ça, de ce qu'est un monument historique, de ce qui signifie des procédures type classement, voire inscription, ou encore inventaire et catalogue. Parce que souvent, dans certaines législations étrangères, ce qu'on appelle le catalogue, le catalogo, ne correspond pas à ce que, en France, traditionnellement, on appelle l'inventaire au sens où l'avait entendu André Chastel, c'est-à-dire, et André Malraux par extension, c'est-à-dire inventaire des richesses artistiques de la France et au sens où on l'entend aujourd'hui par le travail qui est réalisé par les services régionaux de l'inventaire. Et puis évidemment, les distinctions subtiles entre patrimoine matériel, patrimoine immobilier, patrimoine mobilier, et puis on l'a vu aussi émerge d'une certaine manière dans les politiques d'aménagement, de planification, la préoccupation que l'on a de prendre en considération, on en a encore parlé ce matin, me semble-t-il, le patrimoine immatériel, ce qui est a priori assez inattendu. Et puis je peux évidemment continuer sur ces difficultés terminologiques en évoquant les abords, les zones tampons, les arrondissements historiques au Canada, les corridors culturels, on en a parlé pour Rio en particulier, les aires de protection. Alors, on a vu le côté aléatoire des aires de protection. À bord, 500 mètres en France, 152 mètres exactement au Québec, 50 mètres au Portugal, ou juste une prise en compte des terrains adjacents, comme au Mexique. Sans parler, par exemple, d'extensions assez étonnantes comme les trames vertes et bleues dont on a parlé pour ce qui concerne Montréal. Alors, au-delà de la question terminologique, il y a aussi, évidemment, un patchwork de systèmes institutionnels qui sont extrêmement différents, ce qui fait que, bien sûr, dans la démarche comparative, on cherche avant tout à essayer de trouver des outils dans les systèmes étrangers qui peuvent nous servir, mais il convient d'être extrêmement prudent, tant là on a affaire à des systèmes évidemment très variés, systèmes plus ou moins, d'ailleurs, vous voyez, je suis prudent, si j'ai bien compris, centralisé pour ce qui concerne le Portugal, décentralisé, régionaux pour les communautés autonomes, fédérés avec les États fédéraux, c'est-à-dire le Canada, le Mexique, le Brésil, et tout cela avec des législations plus ou moins anciennes. L'exemple de l'Italie est évidemment incontournable, puisque à l'origine de la législation italienne, il y a l'ancienne législation pontificale. D'ailleurs, d'une certaine manière, la manière dont les papes à Rome ont conçu la protection du site archéologique dès, je crois, le 15e siècle, ce serait, au fond, si vraiment on voulait faire de la préhistoire de l'aménagement, de la planification, ce serait un bon exemple. Protection du grand site des forums impériaux de l'époque romaine. L'exemple aussi du Mexique, 1825, j'ai noté, concernant les sites alors archéologiques, mais dès l'indépendance du Mexique, les autorités se sont préoccupées de prendre en considération la protection du patrimoine. Alors certes, c'était le patrimoine d'avant la période donc, de colonisation, c'est-à-dire la période précolombienne. Des textes anciens et la question ici qui vient évidemment à l'esprit, c'est que ces textes s'appliquent sur à partir d'une très grande diversité des échelons territoriaux. Alors d'abord au niveau local, et là on voit bien la spécificité française, ce que je vais dire là, nous le savons bien évidemment, mais j'ai noté, sauf erreur de ma part, 2500 municipes au Mexique, 5000 municipalités à peu près au Brésil, 7954 communes en Italie, 8100 avant la réforme si j'ai bien compris, 35 945 communes en France. Alors certes, on essaye de s'en sortir avec l'intercommunalité. On voit l'impact que ça a, évidemment, avec les réformes introduites tout à fait récemment. Et puis j'allais oublier, excusez-moi, l'Espagne, si j'ai bien compris, là encore, 308 municipalités et 3092 équivalents communes. Vous voyez donc à quel point le système français est à cet égard particulièrement exceptionnel. Je m'autoriserai par rapport à ça une réflexion que je qualifierais de jacobine par rapport à ce que tu as dit ce matin. Jusqu'à quel point peut-on accorder justement un chèque en blanc à des petites communes, aux élus locaux, comment appliquer le principe de subsidiarité dans ces considérations, quel pouvoir accorder à l'échelle locale, aux autorités locales. Évidemment, cela dépend des États. L'exemple de l'Italie ce matin était particulièrement pertinent à cet égard. Peut-on faire confiance au local? Mais aussi, à la limite, peut-on faire confiance à l'État pour protéger le patrimoine local? Faut-il recentraliser les compétences? C'est une tendance qui, semble-t-il, apparaît en Espagne, en France, finalement, d'une certaine manière, en ce qui concerne les sites d'intérêt patrimoniaux. Et puis on a vu que la loi Bassanini de 1998 en Italie tentait d'essayer de régler plus ou moins la question par le biais de compétences partagées. Au-delà des communes, nous avons les régions ou les États fédérés. C'est vite compliqué pour ce qui concerne, évidemment, compliqué par rapport au système français, qui l'est à sa manière, par rapport aux régions, aux communautés autonome de l'Espagne. On a noté aussi que l'État espagnol et la monarchie se préservent, en fait, la gestion, la valorisation, la conservation d'un certain nombre de biens, si je puis dire, patrimoniaux. Quant à l'Italie, on a évidemment des régions, mais certaines d'entre elles disposent d'un régime spécial. C'est le cas du Trentin ou Adige, du Frioul, Vénitie, du Val d'Aoste ou encore de la Sarcène, de la Sardaigne, pardon, ou de la Sicile. Au Canada, c'est le niveau confédéral, bien sûr, avec des territoires spécifiques, donc des espaces particuliers, des parcs nationaux, les canaux, les ports, les gares, qui relèvent de la compétence de l'État fédéral. L'Espagne, je l'ai dit, présente aussi une quelque sorte petite similitude avec les biens de l'État et de la royauté. Le Brésil, qui, lui, distingue des biens d'intérêt international. Alors, c'est le cas, évidemment, on y pense tout de suite au site inscrit sur la liste du patrimoine mondial au titre de la Convention de 72, mais aussi des biens d'intérêt au niveau national, au niveau régional et au niveau local. Quant à l'Italie, ici, il s'agit d'une subtile distinction des biens culturels croisés avec l'aménagement et le paysage. Longue tradition italienne du traitement de la qualité, du traitement a priori de la qualité paysagère. C'est effectivement l'Italie qui a beaucoup fait pour que le Conseil de l'Europe adopte la première convention consacrée strictement au paysage, la convention de Florence. Grande disparité, et puis en même temps, similitude au niveau de l'encadrement juridique, au niveau du droit, similitude dans la chronologie, dans la genèse des textes. Ça a été relevé dès hier matin. Similitude prioritairement dans la protection stricte du monument historique immobilier, le monument en tant que tel, hein. Le Panthéon à Rome, la cathédrale de Bourges à Paris, l'Escurial en Espagne, ou encore la cathédrale sur la place emblématique de Mexico. La genèse de ces textes relatifs à la conservation des monuments stricts, on peut la faire remonter à la loi italienne de 1902, qui a été en fait l'instrument qui a été utilisé par un très grand nombre d'États, en Europe d'abord, pour mettre en place un système de protection, comme la loi de 1913 en France, les lois de 1932-1949 au Portugal, ou encore, pour ne citer que ces exemples, la loi de 1937 au Brésil. Tous les pays donc prennent en compte la protection du patrimoine culturel, des monuments historiques, mais évidemment les traditions culturelles, politiques et administratives de chacun de ces pays explique la grande diversité des systèmes en présence et les combinaisons différentes entre deux catégories juridiques, que sont, d'une part, la planification spatiale de droit commun et, d'autre part, les outils spécifiques de protection de mise en valeur des ensembles. Pour la France, on l'a vu hier, eh bien, ce sera donc le plan local d'urbanisme qui nous réunit aujourd'hui à condition qu'il soit patrimonial. Et puis d'un autre côté, donc les secteurs sauvegardés, enfin les anciens secteurs sauvegardés, les sites aujourd'hui d'intérêt patrimonial. Se pose à ce moment-là, lorsqu'on envisage ces espaces patrimoniaux, évidemment la question délicate, d'abord, ça a été relevé plusieurs fois, la question délicate de la délimitation. Quand on s'engage dans l'élaboration d'un projet, se pose la question de savoir où commence et où s'arrête la protection forte. C'est le cas, par exemple, pour les anciens secteurs sauvegardés. Par exemple, dans le quartier du Marais à Paris, se pose toujours cette question, depuis la création, même avant la création, de savoir si vraiment les limites ont un sens. Et historiquement, c'est un vrai problème. Alors, on a l'exemple de... Passez-moi ma prononciation de l'Entorno, hein, l'institution de l'Entorno, inopérante, nous a-t-on dit, pour prendre en compte les enjeux du développement urbain, espace nécessaire pour la protection du bien, déterminé par l'administration générale. Sur un plus vaste territoire, on a bien vu qu'au Brésil, se posait la question de savoir jusqu'où l'aire de protection pouvait-il s'étendre. On a eu des exemples à partir de la ville de Rio, excusez-moi. Ensuite, qu'en est-il, une fois qu'on a délimité le territoire, qu'en est-il de la planification, précisément? Alors, cette planification, elle émerge dans la décennie 1970-1980, mais on peut encore une fois faire la préhistoire de cette planification à vocation patrimoniale. Il y a un exemple tout à fait intéressant, c'est celui de la ville d'Assise, en Italie, où la nécessité de concevoir une action de conservation qui concerne à la fois la ville et la campagne s'est fait jour grâce à des études qui ont été menées dans les années 57-58, avec notamment l'architecte Giovanni Astengo. Et la sauvegarde des centres anciens, type, par exemple, le quartier du Marais à Paris, s'inscrit en fait dans un mouvement international de préservation et de mise en valeur des quartiers qui se cristallisent un petit peu avant, justement, la décennie 70-80. On pourrait citer le cas du Vieux Montréal, qui est envisagé dès 1964, l'aménagement, ou encore les landmarks et secteurs new-yorkais qui sont établis en 1965. L'approche de cette planification urbaine, évidemment, elle est très diversifiée. Selon cette chronologie, on a des plans d'aménagement pour toutes les municipalités de plus de 20 000 habitants au Brésil. Dans certains cas, quant à l'effectivité de ces plans, on nous a dit, et si j'ai bien compris, c'est le cas du Mexique, avec une généralisation de formes d'urbanisme dérogatoire. Et puis, il faut souligner aussi le poids dans la mise en œuvre de cette planification des pouvoirs financiers et immobiliers. Ce n'est pas sans conséquence sur des phénomènes ensuite, par exemple, de gentrification, parce que c'est le cas dans le centre de Lisbonne, par exemple. C'est certainement le cas, je pense, à certains quartiers de Rio. En tout cas, c'est le cas d'une ville coloniale, Ouro Preto, au Brésil, où là, alors, la population locale a complètement déménagé. C'est le cas aussi, par exemple, en Asie. sur le site de Luang Prabang. C'est un phénomène assez général. Les conséquences d'une planification patrimoniale doivent être envisagées, bien sûr, en tenant grand compte de cela. Il y a un cas intéressant à cet égard en France qui montre qu'on peut, dès le début de la démarche, prendre en considération cet aspect. Je pense à Figeac. Alors évidemment, Figeac, c'est relativement facile parce que c'est un petit secteur sauvegardé, de superficie très restreinte. Et puis Figeac a la chance non seulement d'avoir eu une municipalité vraiment très, très volontaire, mais aussi d'être dans une situation économique relativement correcte. Au-delà des institutions, je dirais, traditionnelles qui ont en charge la réalisation et la mise en œuvre de la planification, j'ai noté l'existence de commissions, d'organismes spécifiques. Par exemple, l'INAH au Mexique, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais cette institution est à Pignon-sur-Rue au Mexique. Elle a été créée donc il y a finalement assez longtemps. Elle est riche d'une expérience dans ce domaine. Et puis parfois, aussi, c'est assez rare, peut-être que je n'ai pas pu tout entendre, je me suis peut-être laissé aller de temps en temps à tenter une petite sieste, des autorités spécifiques. Par exemple, pour Montréal, un bureau commun, un bureau de gestion. Je trouve que c'est une idée vraiment très intéressante qui permet aux autorités régionales, qui sait peut-être fédérales, mais aussi locales, de travailler la main dans la main. Alors, c'est une expérience qu'on avait vécue dans certaines ZPPEUP, dans certaines zones de protection architecturale, urbaine et paysagère, où il y avait des réunions qui se faisaient tout à fait en concertation entre l'ABF et, par exemple, l'architecte municipal pour délivrer les autorisations d'urbanisme. Mais ça mériterait peut-être une réflexion, c'est-à-dire création d'une autorité de ce type. Il faudrait peut-être qu'on parte en mission à Montréal pour voir de plus près comment fonctionne cette autorité spécifique. Il y a des autorités spécifiques aussi très ciblées en Italie, avec les surintendances, c'est une mauvaise traduction, excusez-moi, de premier niveau. Je pense par exemple à la surintendance qui est spécialisée pour le Colisée, le Musée national et le grand site archéologique. Là, on a une administration ciblée, ou encore, si j'ai bien compris, une administration affectée pour la zone de l'espace du château de Faletti de Barolo en Piémont. Ensuite, là alors, se pose tout de même une question liée au problème de savoir qu'en est-il de la participation du public. C'est au fond ce qui me paraît vraiment très important pour l'avenir, quand on essaye de tirer quelques pistes des débats que nous avons eus ensemble. Participation du public à l'élaboration des plans, à l'élaboration d'abord peut-être aussi des inventaires, avant même la réalisation des plans. De ce point de vue-là, l'approche québécoise paraît tout à fait intéressante. Il s'agit d'évaluer l'intérêt patrimonial, de réaliser ces inventaires. Alors, ils le sont, évidemment, quasiment la plupart du temps par d'éminents spécialistes. C'est pas contestable. Il y a d'ailleurs des coopérations entre les services qui sont chargés de réaliser l'inventaire. Il y a même des formations pour l'Europe qui sont organisées par le Conseil de l'Europe, des méthodologies, c'est important, des bonnes maîtrises des outils informatiques, bien sûr, hein, et cette participation du public, elle est d'autant plus intéressante que elle peut être associée justement à la question de savoir localement quel patrimoine faut-il ou non prendre en considération. À mon sens, ça permet évidemment de beaucoup mieux faire admettre les contraintes qui vont s'imposer, les servitudes qui vont s'imposer justement par la suite lorsque l'on rédigera le règlement. Création de nouvelles institutions de concertation, ça me paraît évident. On a évoqué aussi la possibilité de susciter les associations. J'ai noté ce matin qu'un site a été confié à une association pour gérer en Italie un espace particulier. C'est vrai que le rôle des associations est souvent très, très contraint. En France, par exemple, je parle sous le contrôle de mes collègues français, mais alors que les associations qui ont vocation à protéger l'environnement participent, sont très sollicitées, il me semble qu'en ce qui concerne les protections, les associations qui sont plus spécialisées vers la protection du patrimoine culturel, la mobilisation est moins forte. C'est sans doute un jugement de valeur qui peut-être suscitera des contradictions par rapport à ce que je viens de dire. Alors il est certain que pour conclure, quitte à ce que nous puissions poursuivre ensuite ce que je vous ai proposé, il est certain que le droit interne me paraît être de plus en plus influencé par le droit international. Le droit international irrigue de plus en plus, c'est vrai, les droits internes par le biais de la mise en œuvre d'un certain nombre de conventions. Bien sûr, d'abord la convention de 72, on en a amplement parlé. À mon sens, d'ailleurs, à cet égard, il n'est pas nécessaire forcément de disposer de sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial pour que l'on ne puisse pas penser à se servir, par exemple, des orientations qui sont très intéressantes, hein, qui sont élaborées et mises à jour régulièrement au sein du comité du patrimoine mondial. On a accès très facilement sur le site de l'UNESCO à ces orientations. On a parlé d'études d'impact, de plans de gestion, des fameuses zones tampons qui posent évidemment d'énormes problèmes, des plans d'action, des directives sur les paysages culturels, on les a encore évoquées ce matin, ou des paysages viticoles. Et puis, bien évidemment, d'une certaine manière, à la Convention de 2003 sur le patrimoine immatériel. Là encore, on en a parlé, de manière au moins implicitement, notamment à partir du cas spécifique de Lisbonne. Mais l'inscription sur la liste de sauvegarde du patrimoine immatériel de telle ou telle manifestation culturelle peut très bien avoir une incidence ensuite sur la protection d'un centre ancien. Je pense par exemple, alors c'est un cas qu'on n'a pas observé au cours de nos deux journées, mais à Marrakech, la fameuse place, le centre historique de Marrakech est inscrit sur la liste du patrimoine immatériel. la place Djemal, merci, elle est inscrite sur la liste de sauvegarde. Ça me paraît vraiment très, très... un bon exemple, évidemment, c'est pour ça que je le cite, pour comprendre comment on peut envisager de lier les deux textes. Et puis, aussi, bien sûr, il ne faudrait pas oublier les conventions régionales qui sont élaborées par le Conseil de l'Europe. Alors, vous me direz, ça n'intéresse pas le Mexique ou le Brésil, encore que le Mexique, je vous le signale, est observateur au Conseil de l'Europe et qu'il a joué un grand rôle dans l'élaboration d'une autre convention l'année dernière, en 2017, la convention de Nicosie. On peut très bien être un État non membre du Conseil de l'Europe tout en travaillant au sein du Conseil de l'Europe. Alors, si je cite le Conseil de l'Europe, c'est pour faire référence très rapidement, d'une part, à la Convention sur le paysage, d'un outil évidemment tout à fait novateur et qui, dans la définition même qui a été adoptée à Florence, insiste bien sur le fait, d'abord, que le paysage, ce n'est pas uniquement un paysage de qualité, ça peut être à la limite un paysage dégradé, bien sûr, et que ce paysage, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ce paysage, bien évidemment, il est d'abord l'œuvre de ceux qui le vivent. Autrement dit, au sens de la Convention, les outils de planification, ils devraient être, dans l'idéal, nécessairement être d'abord pensés par les populations qui sont directement concernées. Autre convention intéressante, c'est la convention de Faro de 2005 sur la valeur du patrimoine pour la société, qui est un texte aussi qui prend en considération les valeurs qui sont partagées par des communautés identifiées. Et il me semble, là encore, que toute une série d'outils juridiques devraient être mis en œuvre. Bien sûr, ce ne sera pas facile, parce que cette convention de Faro, c'est un texte avant tout, c'est vrai, il faut le dire, incantatoire. Mais la réflexion mérite qu'on approfondisse la question. Voilà quelques réflexions que je me suis faites en vous écoutant au cours de ces deux journées.
Un grand merci pour ce regard sur nos travaux et cette conclusion qui ouvre aussi sur un certain nombre de pistes qui ont été peu évoquées, mais ce serait intéressant de les discuter ici. Donc l'idée, c'est maintenant de passer la parole à l'ensemble des participants pour voir si quelqu'un d'autre veut tirer un certain nombre de fils et ou poser des questions ou réagir, avec l'idée de, encore une fois, de construire cette discussion sur l'intérêt du regard comparatif et sur l'intérêt de la mise en perspective de nos travaux. Oui, Fabrice.
Juste rebondir sur deux points que vous avez cités. Les commissions mixtes État-collectivité. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas en Corse, mais je pense que oui. Pour la commission régionale, donc normalement, elle est présidée par le président... alors, je ne sais plus si c'est du conseil exécutif ou de l'Assemblée, et co-présidée par le préfet. En tout cas, quand elle avait été créée, c'était comme ça. Lorsqu'il y a eu le transfert de la compétence patrimoniale à la région Corse, qui a un statut spécial. Et donc, ça permet de renvoyer aussi sur les régions à statut spécial mais aussi les régions ordinaires qui ont plus de pouvoir que les régions françaises, voire sur les États fédérés, donc en Europe ou en Amérique, comme ça a été développé dans ce séminaire. Donc c'est des voies qui sont quand même un petit peu ouvertes en France. Il faudrait voir aussi ce qui se passe dans les régions d'outre-mer. La France, on le sait, est assez timide là-dessus, mais bon, il y a quand même des portes qui sont un petit peu ouvertes. Et puis d'autre part, sur la convention de Faro, sur laquelle j'avais eu un petit peu à travailler avec le Conseil de l'Europe après pour la valorisation de son contenu, il y a eu des expériences de communautés patrimoniales à Venise et puis aussi dans les quartiers nord de Marseille, et à Venise en particulier, notamment autour de savoir-faire et aussi de patrimoine immatériel pour développer un autre type de tourisme. Alors, ce qui est assez spécial dans la Convention de Faro, c'est que cette notion de communauté patrimoniale, elle renvoyait initialement dans les premiers travaux plutôt à des communautés transnationales. Et vu les difficultés que ça posait, on s'est plutôt rabattu en pratique sur des communautés patrimoniales locales. Alors le terme communauté n'est pas habituel dans ce sens-là en France, puisqu'on les a plutôt mis sous le couvercle. Bon, c'est utilisé sur le plan institutionnel avec les communautés urbaines, les communautés d'agglomération sur le plan intercommunal. Mais en fait, bon, en France, ça a été traduit un peu sous le terme d'association, voilà, qui existe depuis très longtemps et qui regroupe des intérêts locaux qui sont très, très puissants, on l'a signalé sur le plan patrimonial. Donc il y a quand même quelques exemples sur ces deux plans, hein, de commissions conjointes qu'on peut ajouter, ou d'utilisation d'une convention cadre du Conseil de l'Europe qui peine à se mettre en place effectivement, mais quand même.
Moi, c'est par rapport à ce que tu viens de dire et puis ce que disait Martin hier sur le bipartisme et ces décisions que vous prenez, en fait, État-collectivité. Les terrains que moi j'ai étudiés, qui sont Tours, Lyon et Montpellier, sont habitués à travailler ensemble, ville et État, dans la gestion même des documents de planification, puisqu'à Montpellier, il y a une mission qui s'appelle la mission Grand Cœur, où les deux se voient tous les jeudis matins et répondent ensemble d'une réponse conjointe. Donc ça existe déjà, cette logique-là. Après, est-ce que... Et ils sont normalement amenés à travailler sur la planification conjointement aussi, du moins je l'espère, et pas seulement comme personne publique associée. Mais ce qui pose aussi la question, du coup, de cette... on en parlait avec Patrice tout à l'heure. Moi, il y a une question que j'aimerais poser à tous nos intervenants internationaux. Nous, on a l'architecte des bâtiments de France chez nous. Qu'est-ce que vous avez comme corps professionnel décisionnaire? Où se situent les architectes, comme dirait Cécile? Est-ce que vous avez des urbanistes qui sont des aménageurs, ou plutôt des gens qui sont des juridiques? Est-ce que vous avez un corps d'architectes d'État? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que qui prend les décisions finalement sur ce statut de patrimoine urbain?
Patrice, pouvez-vous traduire? qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas compris. Los profesionales del urbanismo,
de patrimonio.
¿Existe algo similar a la arquitectura? No. No existe una formación específica para gestionar el urbanismo o para gestionar el patrimonio cultural. Los profesionales que gestionan desde las administraciones públicas, tres niveles, recordar. Regional, gestión del patrimonio, regional, gestión del urbanismo, regional, gestión del territorio, local, gestión del urbanismo. Los profesionales que acceden a estas administraciones no tienen una formación específica. Pueden ser profesionales de distintas disciplinas, profesionales de la arquitectura, profesionales de la geografía, profesionales del derecho, profesionales de la economía, de la sociología. No hay una profesión de urbanista. Hay una tradición de asimilar la condición de urbanista a la disciplina de la arquitectura. Pero se ha visto ya desde hace tiempo que es insuficiente la formación del arquitecto para ser realmente un urbanista. Depende. No hay una regla general. Por ejemplo, en Asturias, la gestión del patrimonio, hay un protagonismo de los arqueólogos, la arqueología. Pero no necesariamente esto es así en todas partes. Arquitectura, arqueología, géographie.
La formation, oui.
Si, exacto. El acceso.
Si je ne me trompe, en Espagne, la formation d'architecte, d'urbaniste ou de paysagiste est dans la même.
No existe una formación de paisajistas en España. No existe una formación específica para los paisajistas. Es un territorio de nadie o de todos.
Et pour les autres pays, du coup.
Je trouve, en fait, comme Laura Verdelli a dit ce matin, en Italie, c'est récent la distinction formelle entre l'ordre des architectes et l'ordre des urbanistes. Il existe depuis, je ne remonte plus, quelques dizaines d'années. Et en fait, les architectes sont très présents dans l'administration publique, dans les champs du patrimoine et du paysage, et de l'urbanisme aussi. Et pour ce qui concerne le patrimoine spécialement, il y a des écoles de spécialisation qui permettent aux architectes de participer au concours pour les surintendances. Non? Et donc c'est une... Mais j'ai... Et donc on a l'ordre, maintenant on a un ordre des architectes, un ordre des urbanistes, et les paysagistes sont partagés, je pense, entre les deux, surtout sur l'urbanisme, mais... Alors bien sûr, on a les archéologues, mais c'est un peu spécialisé. Je dirais qu'en Italie, le rôle de l'architecte, c'est encore très très fort, et peut-être, je pense, trop fort, parce que, pour exemple, les géographes ne sont pas représentés dans les administrations publiques, pas du tout. Non, c'est pire que dans les concours publics, il n'y a pas la possibilité de participer pour les géographes. Non.
Et est-ce que du coup, vous dites qu'il y a des architectes dans l'administration? Est-ce qu'il y a un corps ou un titre d'architecte d'État ou ce n'est pas le cas et c'est...
Architecte d'État, je ne sais pas. Non, je ne crois pas.
Et au Canada?
Donc, au Canada, il n'y a pas de corps d'État. Donc, il n'y a pas d'architecte des bâtiments historiques ou d'architecte des monuments historiques. Il y a des formations en conservation du patrimoine, mais c'est pas nécessaire pour présenter un projet. C'est sûr que lorsque le projet sera jugé pour être attribué, il faut avoir une connaissance, bien évidemment, mais comme on est un petit pays avec un petit corps d'architectes, on n'a pas de spécialisation. Donc, tout le monde peut en faire. Donc, en cours de carrière, les architectes vont quand même se spécialiser dans des projets de restauration. Donc, à peu près, c'est les mêmes boîtes ou dans certaines boîtes d'architectes, il y aura un architecte qui va se spécialiser plus dans des projets de nature patrimoniale. Donc, de la même manière, pour être fonctionnaire et participer au ministère de la Culture ou dans les divisions d'urbanisme dans les municipalités, on va retrouver surtout des urbanistes, des architectes, bien sûr, des historiens de l'art, des historiens de l'architecture, des archéologues, bien évidemment. Pas tellement de géographes ni d'historiens au sens large là, du terme. On va les retrouver dans ces gens-là, dans les comités là, de discussion, etc. Les formations, il y a des formations. Il y a un ordre des architectes et il y a un ordre des urbanistes. Donc, c'est deux formations différentes avec deux ordres professionnels différents. Il y a aussi un ordre des architectes paysagistes, avec une formation particulière. Donc, c'est la dernière en date là, qui a été mise sur pied, puisque les deux autres sont plus anciennes que les architectes paysagistes. Voilà.
Et petite précision, quand tu dis les urbanistes qui sont dans l'administration, est-ce qu'ils sont plutôt formation géographe aménagement ou plutôt droit et juriste?
Elles sont plutôt pas tellement droit, plus parce que pour mener à l'obtention du titre de l'ordre, il faut avoir une formation en urbanisme. Donc, une formation en géographie, par exemple, ne permet pas, peut permettre, mais il faut passer tous les examens de l'ordre, et là, ça devient très difficile. Donc, il faut, si on veut facilement accéder au titre d'urbaniste, il faut avoir fait les formations d'urbanisme qui sont reconnues par l'ordre, et il y en a quatre au Québec. Il y en a trois. Il y a chez nous, à l'UQAM, il y a à l'Université de Montréal, il y a à McGill et il y en a quatre, donc à l'Université Laval aussi. Donc, il faut passer par ces quatre formations générales, donc de premier cycle en urbanisme, pour ensuite passer les examens de l'ordre, etc., pour avoir le titre. Sinon, on peut faire le chemin en venant d'histoire, mais là, c'est un chemin de croix plus long pour passer les examens, etc. Donc, ça devient beaucoup plus difficile et à l'ordre, on est beaucoup plus exigeant face à ça. Alors qu'en ayant le diplôme, on a une longueur d'avance sur les autres. Alors que les architectes, c'est plus les stages, etc.
Voilà, pour rebondir sur la question des acteurs, en France, évidemment, il y a cette position de l'architecte des bâtiments de France qui est le commandeur absolu, presque. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup d'élus le conçoivent. Donc, d'une certaine façon, ils sont obligés de faire avec. Et c'est là où, au-delà de commissions qui peuvent être des commissions instituées de façon officielle, il y a aussi tout un tas de rapports et des commissions plus informelles, pas officieuses, mais plus informelles qui se mettent en place. Moi, ça m'amène à deux questions. C'est de savoir si, d'une part, il faut officialiser ce genre de commission, les encadrer, etc., ou si, au contraire, on fait confiance aux acteurs et on se dit que le bon sens va l'emporter sur le reste et qu'ils vont se mettre autour de la table et discuter. Alors, ça arrive hein, dans certains cas. Souvent, on essaye de mettre les gens autour de la table et de discuter. Et du coup, quelle est la part, alors je pense au cas brésilien notamment ou à d'autres cas, quelle est la part de négociation informelle? Est-ce qu'elle est plus importante, par exemple, au Brésil ou dans des cas qu'on a vus, peut-être même s'il y a des commissions officielles aussi au Québec, quelle est la part de l'informel dans les autres contextes nationaux, si tant est qu'on puisse l'objectiver et la définir?
Je dirais que c'est une question qui est difficile à répondre comme ça. C'est sûr que la part, donc vous l'avez vu par ma présentation, je dirais que que de plus en plus, même si ça n'a pas toujours été comme ça, loin s'en faut, il y a la part, l'idée d'acceptabilité sociale qui devient hyper importante là, dans le contexte d'approbation ou non de projets. Et donc, dans ce contexte-là où les promoteurs ou les porteurs de projets deviennent de plus en plus conscients qu'il faut bien poser ses billes avant que le projet soit annoncé et qu'on tombe sur la place publique et que ça soit mal interprété, parce qu'à partir du moment où ça part en vrille d'une mauvaise façon, c'est difficile de ramener le bateau à bon port. Donc, effectivement, il y a une part de consensus, en tout cas une volonté de discussion en amont du projet, même s'il y en a qui part solo puis ils pensent et puis ça peut passer aussi là, mais donc je pense que les cas de figure sont assez différents, même si je pense qu'à l'usage et par la tradition des nombreuses contestations publiques et de la médiation de cas qui sont mal perçus, il y a de plus en plus une volonté de tenter d'ajuster les flûtes avant de passer à l'acte. Donc,
bon, cette tâche de négociation au Brésil, ce n'est pas facile parce que les pressions sont très fortes, né? Et il y a beaucoup de mouvements sociaux qui vont chercher que la loi pourra être compris, né? C'est compris. Mais il y a beaucoup des audiences publiques, né? Que les acteurs pourraient parler, né? Faire ces propositions, ces modifications de projet. Mais malheureusement, pour finaliser le projet, l'État est qui va faire la prise de décision finale. C'est l'État qui va donner la décision finale. Il y a petite victoire, né, de mouvement, de la communauté, des habitants qui vont revendiquer des choses. Il y a quelques petites victoires, né? Il y a quelques petites victoires. Mais dans l'ensemble des interventions urbanistiques, et les interventions grandes, né, qui vont provoquer impact environnemental ou impact urbain considérable, l'État va avoir la décision finale.
Et j'ajouterais, c'est sûr que le poids économique du projet va évidemment peser dans la balance, dans le jugement, surtout en centre urbain où on dit « Ah oui, mais ça va créer X nombre d'emplois ou apports économiques, etc., etc. » Et aussi dans une logique où, au Québec, les municipalités tirent la majeure partie de leurs ressources de la rente foncière. Donc, à partir du moment où un promoteur arrive et propose un projet qui va être une valorisation du terrain, ben ça devient là il y a un débalancement des enjeux là qui se met en place. Puis on le voit, il y a des annonces qui sont faites prochainement le port de Montréal. Le port de Montréal est à l'étroit, donc il manque d'espace. Il cherche à prendre de l'expansion. Et une des façons de prendre l'expansion, c'est de traverser et d'aller de l'autre côté du fleuve, donc à contre-cœur, donc qui est plus à Montréal. Et donc, sauf que de ce côté-là, qui est un territoire qui reste rural, donc il est rural, et deuxièmement, il y a une espèce menacée de grenouille qui se trouve dans un milieu humide. Et donc là, on a vu le port de Montréal annoncer déjà combien l'investissement, combien d'emplois, etc., etc. Là, il a posé ses cartes subtilement dans la discussion publique pour que, parce qu'il sait bien que les écologistes et les gens en patrimoine vont venir par rapport à ce développement-là. Mais donc, il est en train de placer ses billes subtilement entre guillemets. Là, mais donc j'ai peur de dresser un tableau trop idyllique là, de la situation au Québec. C'est pour ça que je reviens avec des enjeux qui restent très, très terre à terre et loin des conceptions patrimoniales au sens noble du terme. Voilà.
Au Portugal, nous avons formation en architecture, nous avons formation en urbanisme et nous avons formation en paysagisme. Et nous avons formation avancée, master et doctorat en patrimoine. Et la majorité de les techniciens que travaillent sont architectes dans le patrimoine, sont architectes. Et plus avec formation en patrimoine. Et dans l'aménagement de territoire, la majorité, c'est architecte. Et oui, maintenant, nous avons des urbanistes et d'autres professionnels, mais des urbanistes qui s'occupent de l'aménagement de territoire. Mais c'est récent, très, très récent, cet changement. La formation en urbanisme a débuté en 1978. Et c'est un chemin que c'est pourquoi, je ne sais pas.
Est-ce que vous avez une fonction architecte de la fonction publique ? Dans l'administration, est-ce qu'il y a un titre d'architecte de l'État ou d'architecte de la commune ?
Oui. Nous avons dans la municipalité et dans le service central, nous avons architecte, urbaniste, architecte, géographe, historien, anthropologue. C'est
sur la question du Brésil, de la formation, oui. Il y a une formation unique, architecture, la personne se forme comme architecte urbaniste. Né. Il y a, dans une période très récente, il y a seulement un cours de formation d'urbaniste seulement, mais c'est uniquement un cours qui a été créé dans la ville de Salvador, Bahia. Mais les autres, ce sont l'architecte et l'urbaniste. Et la question de formation du patrimoine fait partie de la formation de l'architecte urbaniste. Il y a des cours, né, dans l'ensemble de cours de formation d'architecte urbaniste, il y a cours spécifiques sur la conservation du patrimoine. São cursos que vão tratar de la manière de faire un projet de restauration et l'autre curso sur la question de théorie de la restauration, de la conservation des bâtiments. Et après, il y a plusieurs formations spécifiques au Brésil, qui sont dans les programmes de master, doctorat et post-doctorat sur la question du patrimoine culturel. Et la question paysagère aussi. Il y a la formation d'architecte paysagère, né, comme un cadre de spécialité. C'est ça. Il y a comme les mêmes situations sont produites par les autres formations, comme les archéologues, anthropologues, historiens, etc.
Arnaud
Moi, c'est une question à tout le monde. En particulier, bien sûr, à nos collègues étrangers, mais c'est un sujet, peut-être que la question d'ailleurs n'a pas d'intérêt, mais quand même, se questionner, alors j'y viens, se questionner sur une protection donc d'un patrimoine, on va dire local, par le biais de la planification urbaine, dont on a bien vu dans chaque présentation que, bon, globalement quand même, elle venait en France comme ailleurs, s'ajouter à la protection d'un patrimoine national apparu très tôt ou plus récemment, souvent en lien avec, bien sûr, une histoire, un récit national. Voilà, donc ça répond à d'autres enjeux, mais qui ne sont pas moindres, mais qui sont effectivement ceux de la région du Piémont ou ceux de la ville de Bordeaux ou de la ville de Tours, etc., etc., ou d'un petit village. Donc ma question, c'est, est-ce que vous envisagez que du coup ce type de protection soit, pour cette raison-là, mais c'est peut-être pas une bonne raison, moins pérenne que peut l'être une protection en tant que patrimoine mondial ou en tant que patrimoine national, dans l'idée que peut-être l'histoire d'une ville, par exemple, est plus évolutive que celle d'un pays. C'est, bon, je le dis brutalement, je pense pas qu'il faille le dire comme ça. Parce que, bien sûr, ça renvoie justement à ce qu'on reproche parfois à la planification urbaine, on l'a évoqué hier, au fait que justement la planification urbaine, elle est en permanente évolution, puisqu'elle recompose le projet urbain au fil d'abord des enjeux politiques, au fil de la pression foncière, de la croissance ou de la décroissance démographique. Mais bon, il y a peut-être aussi l'idée que ce patrimoine-là, et je ne parle pas forcément de tout le patrimoine local protégé par la planification urbaine, mais que parfois rentre dans cette protection un certain nombre d'éléments qu'on décide de garder le temps de faire, par exemple, le deuil de certains épisodes de la vie locale, le temps qu'une ou deux générations passent. Voilà. Donc voilà, c'est une question vraiment ouverte. Je ne crois pas qu'on l'ait abordée directement dans nos échanges. Et voilà, mais je... Non, j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit sous patrimoine, mais un patrimoine avec peut-être une date de péremption. Voilà. Parce qu'après tout, la transmission aux générations futures, c'est pas forcément une transmission pour les siècles et des siècles. Enfin voilà, par exemple, à Saint-Nazaire... j'avais entendu parler de cette question du deuil autour de la Seconde Guerre mondiale et du travail quasiment psychanalytique qu'il avait fallu faire avec la population. Et bon, là, la base, elle est là, hein, à Saint-Nazaire. Et je crois que c'est compliqué de s'en débarrasser, même si c'était la volonté de la mairie. Mais il y a peut-être des choses que parfois on garde un temps donné, puis qu'après, voilà. Donc je ne sais pas si, au passage, on peut aussi déclasser du patrimoine national et mondial, on l'a entendu hier, ça a été rappelé par exemple avec Dresde. Donc voilà, même à l'échelle nationale ou internationale, ça peut aussi ressortir du patrimoine. Mais, bon.
Je pense qu'en effet, il y a une vraie temporalité du patrimoine. Et il faut se donner du temps aussi pour apprécier le patrimoine tel qu'il peut être. Alors c'est vrai qu'à Saint-Nazaire, c'est un peu comme toutes les villes reconstruites, il y a les stigmates de toute la déshérence et de toute la difficulté que ça a pu provoquer. Donc c'est vrai que c'est encore présent dans la mémoire. Donc c'est vrai qu'il y a une difficulté d'appréhender ce patrimoine, ne serait-ce que militaire, qui est un patrimoine existant, les blocos, toutes les fortifications et zones de défense qui ont été construites, qui d'ailleurs ne sont pas toujours liées à la dernière guerre mondiale, parce que c'est aussi des places stratégiques qui datent d'avant. Mais il y a quand même cette mémoire, en effet, assez présente. Alors, les élus sont assez frileux par rapport à cette approche-là, d'une manière générale. Après, il y a des villes qui s'en sont plus emparées. Hein, quand le mémorial de Caen, c'est présent, enfin, ça fait patrimoine. Moi, ce qui m'intéresse dans la réflexion d'avant, au-delà de l'aspect plus local comme ça, zéro, je sais pas quoi, c'est en effet une temporalité jusqu'à quand on maintient la notion patrimoniale, en fait. Et c'est vrai que sur ce que je trouve aussi intéressant dans le patrimoine, ce qu'il faut avoir peut-être en tête, mais c'est une piste de réflexion. Quand on détruit quelque chose, ça veut dire que les générations futures ne le verront plus. En urbanisme, on a toujours un peu de tendance, enfin, en construction, on va dire, à oublier un peu cette notion-là. C'est-à-dire, quand on détruit un monument, ben, on le détruit. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces derrière. Donc ça pose aussi la question de vraiment quelle durabilité on donne à un bâtiment, à un quartier, à un ensemble. Voilà, c'est peut-être des réflexions à pousser là-dessus aussi.
Si je peux réagir, je pense que chez nous, oui, c'est, je replace mes idées, mais je pense qu'il y a toute une idée dans la protection du patrimoine local, en tout cas, de déplacer une approche descendante de l'expert qui vient nous dire « voici du patrimoine, il faut le protéger », à une approche où, certes, l'expert est toujours là pour nous aider à comprendre les choses, bien sûr, mais où il y a vraiment une réelle volonté d'appropriation, en fait, des communautés patrimoniales, de l'idée que la collectivité qui s'approprie ses biens, où elle comprend plus ou moins, en tout cas, mais qu'elle en fait un objet de fierté, et c'est à travers ce patrimoine qui devient projet que le patrimoine prend réellement sens dans les collectivités. Et je pense qu'une des marques du succès de Montréal, justement, même si ce n'est pas une petite collectivité, c'était justement de se voir face aux autorités à Québec et de se dire, ben, ils ne reconnaissent pas notre patrimoine, ils ne reconnaissent pas ce qu'on est, notre identité. Oui, il y a du patrimoine francophone, français, mais Montréal, c'est le confluent de plusieurs cultures, c'est francophone, c'est anglophone, c'est les immigrants, etc. Ils ne nous comprennent pas, donc on va protéger notre patrimoine. Donc, il y a une démarche dans cette volonté-là, et ça fonctionne parce qu'il y a une forme d'appropriation, une fierté d'être Montréalais, d'avoir un patrimoine différent, etc., etc. Et donc, dans cette démarche plus bottom-up, là, ascendante, d'appropriation du patrimoine, il y a toute une réflexion, en tout cas chez nous, autour de comment c'est ça, faire du patrimoine, non pas simplement quelque chose qu'on protège et qui arrête le processus, mais quelque chose qu'on protège et qui démarre un autre processus, un processus d'appropriation, de fierté, peu importe comment on l'appelle. Et on en parlait hier justement avec Julie, tout le défi chez nous, même à Montréal, où on retient 90% de la population immigrante qui débarque au Québec, bien, tout le défi demain, ce sera justement de dire à ces immigrants qui sont chez nous, qui sont devenus Québécois, bien, de dire, bien, cette chose, c'est votre patrimoine. Et là, c'est le défi de demain pour nous. Et ils doivent se l'approprier, parce que sinon, ça ne veut plus rien dire, là, de dire, ah, bien, c'est, peu importe ce que l'expert peut dire sur cette chose. Ouais, pourquoi? Ouais, mais je vais quand même peindre mon truc en vert parce que c'est plus beau. Donc, il y a vraiment une démarche là, de médiation puis de valorisation qui est fondamentale dans cette appropriation locale.